Allez suivre est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'Europe et notre modèle social sont-ils encore des remparts contre les inégalités? Oui, l'accès à la santé et à l'éducation nous protège, mais l'Europe pourrait mieux faire. Premier des paradoxes, dans l'Est de l'Europe, les revenus ont énormément progressé entre 20 et 30% ces 10 dernières années. Mais en République tchèque, par exemple, la précarité touche une personne sur 6 et les riches sont de plus en plus riches. Alexis Rosenzweig.
Les plus grosses fortunes de République tchèque se sont faites ces dernières années une réputation au-delà des frontières du pays et certains noms sont déjà bien connus, que ce soit celui d'Andrej Babiš, milliardaire et premier ministre, ou celui de Daniel Křetínský, milliardaire et nouveau mania de la presse française. Ceux-là font partie de ceux qui ont tiré le maximum de profit de la transformation économique du pays après la chute du communisme, mais ils sont finalement peu nombreux. 30 ans après le passage à l'économie de marché, la nouvelle étude sociologique publiée par la radio publique tchèque met en évidence 6 différentes catégories distinctes au sein de la population. Il apparaît que la moitié des Tchèques appartient à une catégorie inférieure et que, outre les 16% les plus démunis, un Tchèque sur 5 est également menacé par la précarité. L'une des sociologues chargées de l'enquête explique qu'il y a une majorité de femmes dans ce cas, à cause des inégalités salariales, des difficultés pour les mères célibataires, à cause aussi de procédures parfois abusives de recouvrement de dettes et de saisies exécutoires. Les données fournies par cette étude, réalisée auprès de 4000 personnes, font également apparaître les grandes disparités régionales dans ce pays du centre de l'Europe. La capitale, Prague, et ses alentours forment l'une des 10 régions les plus riches de toute l'Union européenne, tandis que certaines zones frontalières avec l'Allemagne et la Pologne souffrent d'un fort taux de chômage et de la désindustrialisation. Cela a bien sûr des conséquences politiques et le clivage entre centres urbains mondialisés et campagnes plus isolées se retrouve en général dans les résultats des élections, comme dans ceux des dernières législatives et la victoire dans les régions les plus pauvres du mouvement populiste du milliardaire Andrej Babiš.
Et si les inégalités progressent dans l'Est de l'Europe malgré la croissance, c'est souvent en raison d'un système de redistribution fiscale défaillant. En Lituanie, on a longtemps juré que par la flat tax, un impôt unique de 20% pour les particuliers et les sociétés. On retrouve à Vilnius Marielle Vituro. Bonjour Marielle.
Bonjour Frédéric.
Le pays est en train de changer avec les discussions pour le budget 2020. Le virage social est entamé.
Combler les inégalités sociales est l'une des priorités du nouveau président. Il a été élu sur cette promesse. 100 millions d'euros devraient être injectés pour améliorer, entre autres, la vie des retraités. Ils touchent en moyenne 344 euros en Lituanie et ce sont les plus touchés par la pauvreté avec les familles monoparentales. Les racines du mal sont à chercher du côté du budget et c'est ce qu'explique Raimondas Kuodis, économiste à la Banque centrale de Lituanie.
Nous consacrons uniquement 6% du produit intérieur brut pour financer les retraites, alors qu'il faudrait monter jusqu'à 9 ou 10%. La pauvreté des retraités est la conséquence directe de ce chaos budgétaire. Et il ne faut pas s'étonner que la moitié des retraités soient pauvres. Le niveau de leur retraite est égal au seuil de pauvreté.
Mais Marielle, il y a aussi bien d'autres raisons à ces inégalités.
Oui, notamment ce qu'on appelle la flat tax, un taux d'imposition unique sur les revenus de 20% actuellement. Mais le pays essaye de revenir en douceur sur ce modèle pour plus de justice fiscale. Tout d'abord en augmentant la part non imposable pour les revenus les plus modestes et en appliquant un taux plus élevé de 27% pour les revenus les plus élevés. Les allocations familiales n'évoluent pas aussi en fonction des revenus, donc elles ne bénéficient pas davantage aux plus pauvres. Le salaire minimum n'augmente que très lentement. Il est aujourd'hui de 555 euros. Puis, les aides sociales sont aussi parfois mal réparties, comme le souligne la Cour des comptes. Les municipalités n'utiliseraient pas tout l'argent à disposition ou le consacreraient à l'éducation ou à la culture. Résultat, la Lituanie est le pays de l'Union européenne qui connaît les plus gros écarts de revenus. Le gouvernement voudrait inverser cette tendance lourde, mais comment financer ces dépenses supplémentaires? Le président évoque une taxe sur les banques, une hausse de la taxation du capital ou le retrait de certains avantages aux agriculteurs. Le Parti des Verts et des Paysans qui est au pouvoir est déjà contre cette dernière mesure. Le financement de la hausse des retraites pourrait être vite l'otage de querelles politiques.
Marielle Vituro en Lituanie.
Il pulsante, disse Zeffirini. Ma no, ignorante, gemette la prof prendendosi la testa fra le mani. Chi sa rispondere di voi?
Et parmi les pays qui ont le plus souffert de la crise de 2008, puis de la crise des dettes souveraines, on trouve bien sûr la Grèce, mais aussi l'Italie dans la botte. Le taux de pauvreté a augmenté au cours de ces 10 dernières années et il est aujourd'hui l'un des plus élevés d'Europe. Pauvreté sociale et pauvreté éducative, les deux sont liés et se nourrissent mutuellement. Dans un des quartiers les plus pauvres de Palerme, en Sicile, San Filippo Neri, que ses habitants appellent Zen, une association essaie de renverser la tendance. Ici, le taux de chômage est de 50% et de 80% chez les jeunes. L'association Zen Insieme, le Zen Ensemble, s'est installée au pied des tours à la fin des années 80 et leur grande fierté, c'est l'ouverture d'une bibliothèque. Cécile Debarge a suivi l'un de leurs ateliers de lecture à voix haute.
5 chaises en cercle, autant d'adolescents de 11 à 16 ans et un recueil de 20 nouvelles intitulé « La dernière larme ». Dehors, le jour tombe lentement sur les barres d'immeubles aux façades d'un jaune fatigué. Dans la petite bibliothèque Giuffa, Alessandra Notarbartolo commence la lecture.
Alors c'est un auteur qui m'a beaucoup plu quand je l'ai lu. D'abord parce qu'il écrit des romans, mais aussi des nouvelles. Et ensuite parce qu'il écrit d'une manière à raconter la vie, le monde qui l'entoure, avec un mélange d'ironie et de réflexion. Alors je commence. Et si quelqu'un veut continuer, vous m'interrompez et vous continuez. C'est bon? Allez, t'es prête?
La lecture dure une quinzaine de minutes, quelques rires, un peu de chahut. La nouvelle décrit une école bien différente de celle que connaissent ses adolescents. Elle décrit des jeunes aisés qui portent mocassins et chemises repassées. Puis vient le moment de donner son avis sur le texte.
C'était une école normale, ça? Qu'est-ce qui est différent par rapport à l'école où vous allez? Attention, un à la fois.
Ils étaient tous habillés pareil, ils portent des uniformes.
L'auteur décrit en réalité une classe où les élèves doivent étudier la télévision. Le seul élève va ouvrir un livre et puni. Anastasia, 12 ans, souligne l'ironie du texte.
En fait, la prof, elle aurait dû être contente qu'ils lisent des livres au lieu de regarder la télé.
Car eux aussi passent plus de temps devant la télévision ou les écrans. Aucun d'entre eux n'a de plaisir particulier pour la lecture. Carmelo, par exemple, ne vient pas vraiment pour les lectures à voix haute.
M'amuser, faire des activités nouvelles, des ateliers et étudier.
Pourtant, à travers la lecture, les enfants se familiarisent avec une autre manière de faire passer le temps qui s'étire parfois à l'infini dans ce quartier où la seule école n'a plus de terrain de sport depuis plus de 10 ans et où le manque d'infrastructures est criant.
On devrait apprendre aux jeunes à lire plutôt qu'à être sur le téléphone parce qu'on est devenus des esclaves de nos téléphones et de la télévision.
Giuseppe est le petit nouveau du groupe de lecture. 11 ans, une moue plutôt renfrognée et pas vraiment à l'origine de prédisposition pour cet atelier.
J'attends qu'ils fassent quelque chose de beau, qu'on ne soit pas sur les téléphones, parce qu'à l'école on est avec les téléphones et à l'école je ne lis jamais. Je fais lire mon voisin ou bien je fais semblant de lire et ensuite je demande à mon voisin.
La bibliothèque existe depuis 2 ans. Les ateliers de lecture à voix haute entament aussi leur 2e rentrée et les élèves qui étaient là depuis le début notent de gros progrès, comme Antonella, 16 ans, qui souhaite devenir coiffeuse ou cuisinière.
J'ai commencé à lire des livres, des textes qui étaient ennuyeux, maintenant sont marrants.
Un coup de pouce pour les cours d'italien qu'a aussi remarqué Alessia, actuellement en classe de seconde.
On a lu des mots qu'on ne connaissait pas, on a découvert de nouvelles expressions. La grammaire, bon, c'est plus dur.
Tout cela pourrait sembler normal, mais au Zen, seuls 10% des habitants ont un niveau équivalent au bac. Seulement un peu plus d'1% d'entre eux va à l'université. Cela n'avait donc rien d'évident, confie Alessandra Notarbartolo, la responsable de l'atelier.
Avec près de 20 000 habitants, le quartier Zen de Palerme n'a aucune bibliothèque, aucune librairie, aucune papeterie, aucun kiosque à journaux. Donc c'était vraiment important pour nous de pouvoir donner cette opportunité aux enfants, ou en tout cas dans un premier temps. Ensuite, on s'est rendu compte que les adultes étaient demandeurs aussi.
En 2 ans, la bibliothèque a accumulé 7000 ouvrages, sans compter les livres scolaires pour le soutien après l'école. Un outil essentiel, selon Alessandra et ses collègues, pour affronter les situations de précarité économique et sociale et surtout réduire les inégalités.
Pour nous, ce qui est essentiel, c'est l'automotivation, et non pas dans l'assistanat ou bien dans le fait de ne répondre qu'à des urgences. Ce qui compte, c'est qu'ils puissent se projeter. On mise beaucoup là-dessus, sur les différences, sur le fait de reconnaître ses envies et pas seulement ses besoins.
La première année, la bibliothèque enregistre 800 prêts, 1000 la deuxième année. La grande surprise est que de nombreuses mamans, attirées par le bouche à oreille, sont venues emprunter un livre.
On ne peut pas exiger ses droits si on ne sait pas les exprimer, les verbaliser, les demander, les nommer. Et ça passe par l'importance des mots, par un vocabulaire complet. C'est fondamental pour réduire les différences.
Un atelier de lecture pour les mamans a vu le jour, puis un autre pour les mamans et leurs bébés. Le projet a été financé par l'église évangélique vaudoise, mais aussi par les dons de particuliers lors d'une campagne de récolte de livres par des éditeurs ou des libraires qui aujourd'hui encore continuent de faire affluer aux Aisnes des livres et des horizons différents.
Et on termine ce tour d'horizon sur les inégalités par les Pays-Bas, petit pays parmi les plus riches de la planète. Mais les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, là aussi, se creusent. À La Haye, Antoine Moutot.
Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de sans-abri aux Pays-Bas. Commençons par les plus riches. Selon l'Institut national des statistiques, le pays comptait 115 000 foyers millionnaires en 2017, soit 3 000 de plus qu'un an auparavant. Leur patrimoine est estimé en moyenne à 3 millions d'euros. Le haut du panier donne le tournis. La société Euronext, basée à la bourse d'Amsterdam, souhaite augmenter le salaire de son dirigeant, Stéphane Boujna, de près de 35%. Grand Vision, un grand groupe international de distribution d'optique dont le siège se trouve près de l'aéroport de Schiphol, veut quant à lui augmenter son PDG Stefan Borchert de près de 40%. Pourtant, ce dernier n'est pas vraiment à plaindre puisque rien qu'en 2018, il a déjà gagné la modique somme de 2,71 millions d'euros. Des chiffres qui agacent notamment les syndicats et les responsables politiques, mais aussi les actionnaires de plus en plus suspicieux. Et pourtant, rien ne semble arrêter ces augmentations. Aux Pays-Bas, l'an dernier, les PDG ont gagné en moyenne 7% de plus qu'un an auparavant, alors que les salaires régis par les conventions collectives, eux, n'ont augmenté que de 2%. Paul Polman, le chef du géant néerlando-britannique de l'agroalimentaire Unilever, a gagné 283 fois plus qu'un employé moyen. Mais il y a aussi les pauvres aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont beau être l'un des pays les plus riches au monde, près de 620 000 personnes n'ont pas assez d'argent pour se nourrir, s'habiller, se loger et payer leurs mutuelles. 250 000 personnes aux Pays-Bas sont actuellement sous curatelle, assistées pour gérer leurs maigres revenus. Les personnes avec un bas revenu ont chaque mois en moyenne 100 euros de moins dans leur porte-monnaie qu'il y a 10 ans. Et pire encore, de 2009 à aujourd'hui, le nombre de sans-domicile fixe a doublé, passant de 18 000 à 40 000 personnes. Jusqu'à il y a peu, il était plutôt rare ici de voir des personnes dormir dehors, mais faute de place en centre d'accueil, les personnes passant la nuit sur des bancs ou dans des parkings à vélo sont une nouvelle réalité pour les Pays-Bas.
Ce sont des pionniers. Il y a 30 ans, pour la première fois dans le monde, des couples homosexuels étaient unis par un partenariat reconnu par l'État. C'était à la mairie de Copenhague, au Danemark, en octobre 1989. Très précisément, sur place, Anne-Françoise Hiver a retrouvé plusieurs de ces couples unis civilement il y a 3 décennies.
Ce jour-là, à la mairie de Copenhague, ils sont 11 couples à se présenter devant l'adjoint au maire, Tom Alberg. 22 hommes qui vont faire l'histoire en devenant les premiers homosexuels au monde à s'unir civilement. Parmi eux, Ib et Karl Peller. Ils ont 66 et 67 ans. Aujourd'hui, ils vivent à Copenhague et ils viennent de célébrer leur noce de perles. Karl Peller se souvient.
Au début, on n'avait pas réussi à entrer parce qu'il y avait tellement de monde. Les portes de la mairie étaient fermées. De temps en temps, un fonctionnaire passait cassé la tête pour regarder dehors. Ils ne s'étaient pas vraiment préparés à une telle foule. Du coup, les gens ne savaient pas quoi faire. On s'est mis à crier pour dire qu'on devait entrer, qu'on était un des couples. Le fonctionnaire avait l'air d'avoir vraiment peur. Il a ouvert la porte et il nous a laissé entrer. 5 ou 6 autres couples nous ont suivis. Le début était un petit peu chaotique.
Ce jour-là, Ib et Karl Beder sont venus seuls. Ils feront la fête avec leurs amis et leurs proches plus tard.
On participait à une manifestation. Pour nous, c'était une action politique d'être là. On n'a pas envisagé ce jour comme une célébration de notre relation. On était là pour honorer le fait que quelque chose d'important et de nouveau venait d'avoir lieu pour tous les homosexuels du Danemark.
La loi autorisant l'union civile des homosexuels a été adoptée quelques mois plus tôt, le 26 mai 1989. Une motion en ce sens avait déjà été présentée par l'opposition de centre-gauche quelques années plus tôt, en 1984, mais une majorité avait voté contre. 5 ans plus tard, 57% des Danois soutiennent la loi. Au Parlement, les débats sont apaisés. Le jour du vote, les partis ne donnent aucune consigne. 1/3 des sièges restent vides. La loi est adoptée par 71 voix pour et 47 contre. Pourquoi le Danemark? Selon l'ancien adjoint au maire, Tom Alberg, l'épidémie du sida a fait bouger les mentalités.
À l'époque, au Danemark, le mouvement LGBT avait gagné en visibilité à cause du VIH et du sida. Il y avait une atmosphère politique qui a joué en sa faveur. Cela aurait sûrement eu lieu plus tard, mais le VIH a accéléré les choses. Les politiques se sont dit qu'il fallait faire quelque chose, en partie parce qu'ils avaient mauvaise conscience.
Mauvaise conscience de ne pas avoir réagi plus tôt face à l'épidémie, d'avoir traîné à reconnaître les droits des gays et lesbiennes. Au Danemark, l'homosexualité figure sur la liste des maladies mentales jusqu'en 1981. Certains élus, de droite notamment, voient le partenariat comme une façon de limiter la propagation du virus en encourageant la monogamie, car il s'agit bien d'un partenariat, pas d'un mariage, rappelle Ivan, pasteur luthérien qui s'est uni à son compagnon, Uwe, le 1er octobre 1989.
Je me rappelle qu'un député a dit qu'on pourrait avoir ce qu'ils étaient prêts à nous donner, rien de plus. Et c'était le partenariat. Nous, les homos, nous avions inventé le mot et nous le détestions. Mais nous n'avions pas le droit d'être mariés. Nous avons dû nous battre pour y arriver.
Les couples homosexuels danois obtiendront finalement le droit de se marier en 2012. Dès 1986, cependant, Ivan propose de bénir religieusement les couples homosexuels qui le souhaitent dans son église de Copenhague. Ses collègues le soutiennent. La hiérarchie ferme les yeux. Ivan et Ulle se sont rencontrés dans un bar en 1986. Le 1er octobre 1989, ils sont les deuxièmes à passer devant l'adjoint au maire. Après leurs amis, Axel et Egil, les cofondateurs de la première association LGBT danoise en 1948.
Yvan et moi, on s'était dit que dès que légalement, on pourrait enregistrer notre partenariat, on se dirait oui.
On s'était battu pour l'obtenir. Alors c'était une évidence qu'on allait le demander dès le premier jour où c'était possible.
Tous n'y sont pas favorables. Une majorité des lesbiennes critique ce partenariat qui ne leur donne pas le droit à l'adoption et n'est pas un véritable mariage. Elles y voient aussi une façon de rentrer dans les rangs, de s'embourgeoiser. En tant que féministes, Anne Vibeke et Elisabeth y sont opposées, mais elles changent d'avis et font enregistrer leur partenariat le 5 octobre à Copenhague. 30 ans plus tard, Elisabeth analyse la portée de ce moment historique.
Nous ne savons pas ce qui se serait passé si nous n'avions pas enregistré notre partenariat. Mais je pense que nous pouvons être plus fiers dans notre vie quotidienne. Nous sommes mariés au même titre que nos voisins ou que n'importe qui. Nous sommes un couple comme eux. Et je pense que ça a eu beaucoup d'importance pour les jeunes qui découvrent aujourd'hui qu'ils sont homosexuels. Nous sommes des modèles pour eux. Et je sais que j'aurais eu besoin d'un modèle quand j'ai réalisé que j'étais homosexuelle. C'était vraiment difficile.
À l'époque, les opposants craignaient une invasion du Danemark par les gays et lesbiennes du monde entier. Cela n'a pas eu lieu. 30 ans plus tard, 29 pays ont légalisé le mariage des couples de même sexe.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. À demain.